Alors, ça recommence.
Orange juice without ice, madame.
Thank you.
Fait pour, hein. Non ? Puis on a de la chance, parce que...
Bon. Hey. Est-ce que vous avez tous compris ?
Psst. L'été, comme jamais.
Existe-t-il un métier plus fascinant tout en étant aussi familier? À force de les voir dans des films, dans des séries, oui, on a l'impression de les connaître, de tout savoir sur les espions et les espionnes, et pourtant, on brûlerait d'en avoir un ou une sous la main pour l'assaillir de questions. C'est mon cas ce matin et je ne vais pas bouder mon plaisir. Nous sommes nombreux à avoir avalé la 5e saison du Bureau des légendes pendant le confinement. Et ces histoires d'agents sous couverture, ces histoires d'espions envoyés à l'étranger sous une fausse identité nous ont fait voyager plus que jamais. Alors je vous propose d'interroger notre fascination ce matin. J'ai invité la scénariste de la série à succès, ainsi qu'un acteur du Bureau des légendes, mais aussi un espion pour de vrai. Le regard des uns sur les autres s'annonce passionnant. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions, chers auditeurs, chères auditrices, 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter. La vraie vie des espions, voilà le programme jusqu'à 11h. On retrouvera aussi le répondeur de France Inter autour de 10h30. Un coup de fil au magazine Cosette avec un coup de projecteur sur les routières. Et la chronique de Laurent Delmas en fin d'émission. Plateau Ciné, un conseil de bons films à voir sur la plateforme de vidéo à la demande universciné.com. Un chef-d'œuvre espagnol au programme aujourd'hui. Allez, c'est parti, nous avons le droit d'en connaître. Soyez les bienvenus.
Dorothée Barba, 9h-11h sur France Inter.
Bonjour Camille de Castelnau.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes la scénariste du Bureau des légendes aux côtés d'Éric Rochand, le créateur de cette série sur Canal+. Éric Rochand ne sera plus aux commandes pour la saison 6. Il a d'ailleurs commencé à lâcher la main de son bébé au terme de la saison 5 en confiant la réalisation des deux derniers épisodes à Jacques Audiard. Est-ce que vous serez, vous, encore de l'aventure ?
Non, moi non plus. Moi, comme Éric, j'ai décidé de faire autre chose après 5 ans, 5 saisons. Non, ce sera sans moi.
C'est une forme de deuil, ça va, vous le vivez bien ?
Ça pourrait s'apparenter à un petit baby blues, mais franchement, ça va.
Vous êtes partie, vous aussi, petit à petit, en laissant un petit peu les clés du scénario à d'autres ?
Oui et non, je suis partie progressivement, mais Éric, lui, était toujours là et bien là. Donc, j'ai pas du tout le sentiment d'être dépossédée parce que c'est quand même vraiment sa série. Donc voilà.
Ce n'est pas sans émotion que j'accueille également Raymond Sisteron. Bonjour Jonathan Zakaï.
Bonjour, bonjour.
L'un des interprètes de la série du Bureau des légendes. Vous allez nous raconter en détail ce que ça fait que de s'attaquer à un tel mythe, la profession d'espion pour un acteur. Et mon troisième invité, je le disais, est un vrai espion, ou plutôt un ancien espion. Bonjour Olivier Masse.
Bonjour.
Ancien agent de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, vous racontez votre métier sur YouTube, sur une chaîne baptisée Talk with a Spy, sous le pseudonyme Beryl614. Alors, ni le pseudo, ni le nom que je viens de donner ne sont votre vrai état civil, évidemment. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes vraiment un ancien agent ?
Comment vous le prouvez par téléphone ?
disons qu'il
y a eu plusieurs articles me concernant et donc puis un éditeur qui m'a fait confiance pour mon livre Profession espion et tous ces gens-là m'ont demandé des preuves et puis il y a des gens qui ont des contacts au sein de la DGSE et qui s'interrogent et voilà est-ce que ce Olivier Masse est un ancien et on leur a dit oui.
Voilà, on vous croit sur parole ce matin, Beryl 614, voilà. Et les échanges avec la scénariste du Bureau des légendes s'annoncent passionnants. On se plonge avec délice dans la vie des espions dans un instant. Mais d'abord un coup de fil à la presse, comme chaque matin. Et le mardi, on feuillette Cosette. Bonjour Isabelle Motreau.
Bonjour Dorothée Barba.
Directrice de la rédaction de ce magazine féministe. Dans le numéro double de l'été qui est en kiosque en ce moment, un hommage à des femmes qui incarnent le voyage et le courage.
Absolument. Voyage, courage, hommage. C'était notre envie aujourd'hui. On a eu envie de parler de toutes celles et ceux qui nous ont porté nos paquets de pâtes et de vécu pendant le confinement, c'est-à-dire les routiers et les routières. Est-ce que vous m'entendez bien, Dorothée ?
Je vous entends très bien. Allez-y, continuez.
Non, parce que... Alors, d'abord, c'est notre rédactrice en chef, Sarah Gambio, qui a repéré en fin de confinement le livre de Jean-Claude Raspienjas, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, parce qu'il fait partie du Masque et la Plume. Son livre s'appelle « Routier ». Et alors, on a été emballés par ce bouquin, parce que sur les routiers, on a quand même pas mal de clichés, et il les déconstruit totalement. Il est défini, lui, comme les fantassins de nos désirs et de nos impatiences de consommateurs. C'est beau, hein ?
Ouais, c'est magnifique.
Alors, c'est un sujet passionnant, mais alors bon, comme on est Cosette, hein, vous nous connaissez, nous on a été plutôt interrogés par la vie des routières, donc on a renvoyé Jean-Claude Raspienjas sur la route, et en exclusivité, eh bien, il a repris cette route et il nous présente dans le magazine de cet été 5 routières qui sont des sacrées bonnes femmes.
Alors, c'est un métier effectivement assez peu valorisé, mais alors les femmes parmi les routiers sont vraiment les invisibles parmi les invisibles.
Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du confinement, Annick, une routière, avait fait une vidéo sur Facebook qui a beaucoup tourné, où elle disait « On roule parce qu'il faut nourrir les Français, transporter les marchandises qui vont avec, mais à côté de ça, nous, on est la dernière roue du carrosse, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de se laver, pas le droit de manger. » Et elle terminait son coup de gueule par « Respectez-nous, pensez à nous ».
Alors, les conducteurs et conductrices de poids lourds assurent 89% du transport de marchandises dans l'Hexagone. C'est pas rien, Isabelle Motreau.
C'est ça, c'est énorme. Et pendant le confinement, il faut savoir que le gouvernement a adopté plusieurs arrêtés pour que les biens de consommation puissent circuler. Et ça a abouti à ce qu'on pouvait circuler jusqu'à, enfin, les routiers et routières, jusqu'à 60 heures de conduite par semaine. Vous vous rendez compte ? 60 heures. Et pourtant, pendant le confinement, eh bien, les aires de repos, les parkings étaient fermés, les toilettes, les sanitaires inaccessibles, il n'y avait pas de resto, il y avait interdiction d'accéder aux machines à café, donc c'était très compliqué pour eux.
On n'a pas le temps, évidemment, de détailler tout l'article qu'on lira dans Cosette, Isabelle. Les routières vivent plutôt mal, les choses se sont améliorées un peu ?
Alors, les choses se sont un petit peu améliorées. Toupinette, qu'on interviewe dans le journal, dit qu'au départ, quand elle a commencé, elle a 70 ans de route au compteur. Hein, elle se rappelle du moment où, quand elle arrivait dans un resto routier, il y avait un gros silence qui se faisait. Bon, ça s'est un peu arrangé, mais il faut quand même savoir que c'est quand même toujours très difficile pour elle. Rien n'a été pensé pour les routières. Au début, elles se trimballaient toutes avec des ficelles pour fermer les toilettes, parce que rien n'existait pour prendre une douche, etc. Bon, il n'y a plus de ficelles dans les camions, mais quand même, on sent que c'est un métier qui s'adapte très lentement aux femmes.
Voilà, savoureuse galerie de portraits à retrouver dans Cosette, le numéro estival. Évidemment, le titre, Les routières sont sympas, c'est dans le numéro d'été de Cosette.
Vrai, hein.
Merci beaucoup Isabelle Motreau et à mardi prochain.
Merci Dorothée, au revoir.
I see some troubles heading my way, but I don't care at all. I see a problem coming to me, but I'm not scared at all. I know them well, they know me well, they come and go before you know. I am their friend, they don't pretend, we disagree about my misery. See a huge storm of hail, to the sky I give a 5. I cannot work, say what the hell, then I keep calm and dive. I dance with words, words dances with me, he smiles at me, I love for us both. We dance a vals, we dance a twist, with a nice swing, once or twice. With all the love, without the pain, I accept you all and sing my refrain. 'Cause you at least my little beast, you give me all, expecting nothing in return. I ride along the highway of life, weaponless, no gun, no knife. Just like a doll, I can't control matters, feelings and strikes. I love my issues, give them and tissues that I usually use to wipe my tears. Collect them one by one, accept and all is gone, this is is madness and fun without complaints, without the love, without the pain. I accept you all.
Welcome back to me, c'était Meriem Abouloifa sur France Inter.
C'est comment de travailler sous ma direction?
C'est différent. Depuis quelque temps, ça va. Tu t'es détendu. T'es moins crispé, moins injuste, moins sadique.
Marie-Jeanne et Raymond, alias Florence Loirecaille et Jonathan Zakaï, deux des agents de la série Le Bureau des Légendes. On reçoit ce matin Camille de Castelnau, la scénariste de cette série Canal+, ainsi qu'un ancien agent de la DGSE, et Jonathan Zakaï, comédien de la série, pour parler de la vraie vie des espions. Et j'aimerais qu'on commence avec cette question qui nous vient d'un auditeur, question passionnante. Je me demandais, écrit Jean-Philippe, si les techniques dévoilées dans le Bureau des Légendes ne constituent pas un danger réel dans la pratique du renseignement. Camille de Castelnau.
Alors, j'espère que non.
Êtes-vous un danger pour la France?
J'espère que non. Je pense que non, heureusement pour la France. L'idée que des agents puissent être mis en danger à cause de nos imaginations malades et puissent être torturés par des services étrangers parce qu'ils ont été démasqués, parce que le service étranger a vu le Bureau des Légendes et s'est dit, mon Dieu, je comprends tout soudain, tout à coup. Non, plus sérieusement, je pense que non, pour deux raisons. D'abord, parce que les techniques dont on parle, elles sont soit connues, avérées, et donc on ne révèle rien, soit elles sont vraiment le fruit de notre imagination parfois un peu débordante, mais en tout cas, a priori, elles ne révèlent rien, en fait, à part nos inconscients respectifs.
Évidemment donner la parole à l'espion. Olivier Mas, c'est une question que vous vous posez, le rôle de la fiction dans le dévoilement ou non des techniques de renseignement?
Oui, moi, effectivement, je partage le point de vue de
Camille de Castelnau.
On ne sent pas menacé, effectivement. On voit bien des procédures un petit peu secrètes, mais elles sont connues des services de contre-espionnage de toute façon. Donc, les agents sur le terrain ne sont pas fragilisés par le Bureau des Légendes, c'est certain.
Vous avez un exemple concret peut-être de technique qui serait dévoilée, Olivier Mas, dans la série Le Bureau des Légendes?
Non, mais là, je revoyais pour les besoins de l'émission un petit peu la dernière saison. Je vois des techniques de chiffrement, des techniques des communications entre l'agent sur le terrain et la centrale, et des habitudes, et puis des logiciels qui sont cachés dans les partitions d'ordinateur. Donc ça c'est sensible, mais c'est également connu. Donc un service de contre-espionnage, quand il a un doute, il va te fouiller de toute façon. Et puis il regarde pas forcément le Bureau des Légendes. Et puis il connaît ces techniques. De toute façon, il connaît le principe de base.
Juliette Delperrou, qui est à la technique ce matin, est terrorisée à l'idée que vous divulgachiez la série. Elle n'a pas encore terminé la saison 5 apparemment. Donc on va faire le serment ce matin à 10h19 de ne rien spoiler, de ne rien divulgacher. Jonathan Zakaï, je rappelle que vous jouez Raymond Sisteron dans cette série. C'est impressionnant comme rôle pour un acteur de jouer un espion, ou c'est d'une banalité confondante?
Non, c'est impressionnant. Enfin, disons qu'on est tous, surtout avec les années qui passent et les saisons qui passent, on est quand même investi au final d'une manière un peu différente. C'est forcément, on a l'impression d'être devenu on est presque devenu des vrais espions, quoi. Cette année, on a eu le privilège de, enfin, excusez-moi, monsieur qui est un vrai espion, je rigole à moi quand même. Mais cette année, c'est vrai qu'on a eu le privilège de tourner au sein de la DGSE une ou deux scènes, et du coup on a eu la visite du directeur de la DGSE, de la ministre de la Défense, qui est venue me serrer la main, me demandant comment allait ce bon vieux Raymond. Donc si vous voulez, je me sentais plus, quoi, après. Ouais.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce bon vieux Raymond, Jonathan Zakaï? Est-ce que ce serait pas un personnage un peu trop émotif, qui a du mal à cacher ses failles et qui pourrait être excellent s'il s'en donnait la peine?
Non. Oui, mais écoutez, est-ce que c'est pas un peu justement est-ce que c'est pas un peu le cas de beaucoup d'agents? Enfin, je veux dire, finalement, c'est ça qui est assez beau d'ailleurs quand on leur montre les deux premiers épisodes à la DGSE tous les ans, et
il y a tous les profils, donc on cherche le malotru dans la foule. Alors est-ce qu'on peut le reconnaître physiquement, malotru, je ne sais pas, peut-être pas.
Alors malotru, c'est le personnage incarné par Mathieu Kassovitz, on le rappelle.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que je crois qu'on voit pas mal de cisterons, finalement, des gens qui sont juste, qui ont l'air de finalement de pas être des super-héros et qui ça doit être très compliqué. Nous on joue la comédie et si on joue mal, c'est pas grave. Eux, ça peut leur coûter la vie. Donc c'est quand même c'est forcément on a des failles et je pense que Raymond est à l'image de pas mal d'espions, j'imagine.
Camille de Castelnau, il y avait effectivement au moment de la rédaction du scénario de cette série la volonté de mettre des super-héros et des agents normaux entre guillemets.
Oui, bah il y avait la volonté déjà de faire une série de bureaux, donc c'est pas très sexy comme ça a priori.
C'est vrai que c'est très administratif, mais c'est beaucoup moins aventurier que ce qu'on aurait pu imaginer.
C'était un vrai désir d'Éric Rochant et de l'équipe d'écriture derrière lui. Raymond Sisteron, c'est un bon exemple parce qu'à la fois
la machine à café est très présente.
Oui, exactement. Comme partout. Raymond Sisteron, à la fois, c'est vraiment un homme de bureau, un fonctionnaire. On le voit beaucoup, dans la saison 1 notamment, il est quand même beaucoup, beaucoup derrière son bureau.
Il mange des gâteaux devant son écran.
Ensuite, il s'aventure plus sur le terrain, et il paye de sa personne physiquement. Je vais pas spoiler, mais voilà. Donc, il y a aussi de l'action, mais c'est aussi ce double aspect de la vie des espions qui nous intéressait vraiment.
Il donne de sa personne, ça, c'est vrai. Ouais. Raymond.
C'est littéralement.
Souvent,
il y laisse un morceau, quoi.
Jonathan Zakaï, allez-y.
Non, ce qui est étonnant, c'est que souvent, je suis surpris des gens qui aiment la série. Non pas qu'ils l'aiment, ça fait plaisir, mais je suis toujours surpris. Leur passion pour les scènes de crise et de réunion, c'est-à-dire que les gens adorent en fait du bureau, ceux qui aiment le bureau, ils adorent ces scènes-là en fait. Et moi, je pensais qu'ils préféraient. Alors, ils aiment aussi les scènes d'action, mais c'est vrai que les scènes de bureau, finalement, ont quand même leur attrait justement. Enfin, ils plaisent vachement aux spectateurs.
C'est vrai qu'on souffre un peu de réunionnite aiguë au bureau des légendes, comme dans beaucoup d'entreprises et d'administrations françaises. Camille de Castelnau, ça, c'était un prérequis au moment d'écrire la série.
On voulait faire une série
avec plein de réunions
réaliste et française. Donc non, mais plus sérieusement, c'est justement des gens qui font un métier sérieux. Les décisions sont quand même très collégiales. Se décident et il y a énormément de réflexions, heureusement, évidemment. Et du coup, oui, il y a beaucoup de réunions dans lesquelles les enjeux sont énormes. Donc c'est intéressant de les traiter.
Olivier Mas, ancien agent de la DGSE, ça j'imagine que c'est quelque chose qui vous fait plaisir parce qu'on a une image souvent très romanesque de ce métier d'agent, alors que c'est avant tout une vie de bureau, une vie d'écrit.
Oui, absolument. C'est pour ça que les agents de la DGSE souvent se reconnaissent dans cette série et qu'on aime bien. Et je dois dire qu'en plus, la réalité est encore pire que dans le bureau des légendes. C'est encore plus de réunions. Et puis on écrit, on est souvent derrière son ordinateur, même quand on est sur le terrain, même quand on est en poste à l'étranger, à l'extérieur. On va passer les trois quarts de son temps derrière son écran d'ordinateur et son clavier. C'est l'arme principale de l'espion, c'est son clavier d'ordinateur. Donc c'est encore plus sinistre, entre guillemets, que dans la série. Mais il y a des moments, évidemment, d'intensité très forte. Et c'est ce qui rend le travail, de toute façon, passionnant. Même le bureau, c'est passionnant.
Même le bureau, c'est passionnant. D'ailleurs, certaines scènes, Jonathan Zakaï le disait à l'instant, ont été tournées boulevard Mortier au siège de la DGSE à Paris. Et Camille de Castelnau, je crois que l'intitulé même de cette émission vous a un peu dérangé au départ. La vraie vie des espions.
Non, c'est un très bel intitulé, mais je me suis demandé pourquoi j'étais invitée, moi, parce que...
En tant que scénariste du Bureau des légendes, vous ne la connaissez pas, cette vraie vie.
Exactement, je la connais pas, et notre travail, justement, consiste à inventer une fausse vraie vie des espions.
À quoi ça ressemble, une fausse vraie vie?
C'est-à-dire que les espions, on a en tête James Bond, des gens qui ont des objectifs et des obstacles extérieurs à eux-mêmes. Nous, évidemment, en tant que scénaristes, ce qui nous intéresse, c'est les personnages et leur intériorité. Donc certes, il y a leur métier qui est l'espionnage. Donc ils portent un masque, ils avancent masqués, et c'est ça qui fascine beaucoup tout le monde. Mais ils ont aussi d'autres qualités, d'autres défauts, des désirs, des objectifs, des obstacles. Et pour un bon personnage, surtout de série, il faut que tout ça soit intériorisé. C'est-à-dire que ça peut pas être juste se battre contre le monde, c'est aussi beaucoup se battre contre soi. Et justement, le Bureau des légendes, je pense, une des thématiques dont ça parle et que Raymond incarne, évidemment Malotru l'incarne, mais Raymond Sisteron aussi, c'est le contraste entre leur engagement, leur devoir, le sens de la patrie, leur travail, et de l'autre côté, leurs affects, leurs émotions, leurs sentiments.
Voilà, voilà. Et c'est passionnant, j'imagine, pour un comédien, Jonathan Zakaï, parce qu'il faut incarner quelqu'un qui doit tout cacher, mais il faut pourtant que le téléspectateur voit qu'il est en train de tout cacher.
Oui, c'est-à-dire que de toute façon, dans cet univers-là, je ne sais pas si Olivier Mas le confirmera, mais c'est vrai qu'il y a vraiment le masque permanent. Donc, on est. Donc forcément, le moindre sentiment, la moindre faille se ressort encore plus et prend du relief. Et évidemment, la difficulté de mon personnage est tout le temps d'être en contrôle, d'arriver à ne pas avoir trop d'empathie, d'arriver à rester sur la tête froide, quoi.
Olivier Mas, dans votre chaîne YouTube Talks with the Spy, vous en parlez régulièrement, hein, de cette question du mensonge, de l'identité de couverture. C'est ça le plus difficile à vivre pour un agent comme vous lorsque vous étiez en fonction?
On s'y habitue forcément, puisqu'on y vit tous les jours. Mais je tiens à préciser souvent, enfin, le masque, le mensonge, la manipulation, elles n'ont pas lieu entre collègues et avec notre hiérarchie. Et donc, on n'a pas l'impression de mentir et d'être un menteur patenté.
Mais il y a certains mensonges, sûr que, en tout cas, entre collègues, si on en croit la série, il y a certains mensonges, des choses qui ne sont pas dites à tout le monde.
Dans la série, on a été obligés, pour des raisons évidentes de fiction, de romanesque, effectivement, de créer ce personnage de Malotru qui, lui, pour le coup, ment à ses collègues, ment à l'institution.
Voilà, mais les agents doubles, ça n'existe pas, évidemment, Olivier Mas.
Donc évidemment, il y en a, tous les services ont eu un ou deux, ou pouvoir plus, agents doubles dans leur histoire. Mais c'est sûr que le personnage de Malotru, enfin, dès le départ, dès les premières secondes, les premiers épisodes, on voit qu'il est complètement en dehors des lignes, qu'il ment à son officier contrôleur tout de suite. Donc, en tant que vrai espion, on se dit tout de suite, oulala, Malotru, il faudrait le virer, il
alerte
est dangereux.
Rouge. Hein. C'est l'une des qualités les plus importantes, hein, pour un bon agent, c'est ce que vous dites dans l'une de vos vidéos, c'est l'honnêteté. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu étonnant pour un métier où on a l'impression que le mensonge est en majesté.
Oui, parce que on doit faire absolument confiance, une confiance absolue, parce que les gens, ils sont à des milliers de kilomètres, ils ont des armes parfois, ils ont de l'argent, ils vont manipuler, ils vont pouvoir faire de grosses erreurs, qui peuvent être pas rattrapables. Donc, on doit avoir une confiance absolue en ces agents. Donc, en fait, voilà, c'est une nécessité.
Le syndrome du clandestin, chapitre important dans le Bureau des légendes, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome du clandestin, c'est quand un agent met les services de renseignement en danger parce qu'il n'arrive pas à lâcher sa légende, autrement dit son identité d'emprunt, sa fausse identité. Est-ce que ça arrive dans la vraie vie, ça, Olivier Mas?
Oui, ça arrive.
Ça vous est arrivé?
Donc moi-même, au début de ma carrière, j'étais clandestin. Sinon, on a une carrière un peu plus classique. Donc j'ai eu cette difficulté. Alors moi, je l'ai bien géré, j'ai coupé les ponts, etc. Mais c'est une souffrance parfois, parce qu'on a parfois, pendant dans sa vie de légende, noué des relations très fortes d'amitié
ou d'amour.
Et puis c'est arrivé à un collègue qui s'est fait virer ensuite parce qu'il a été détecté et il a eu une histoire d'amour et une femme qui l'a ramené de mission et en France.
Donc c'est des choses qui arrivent. Dans votre cas, une histoire d'amitié douloureuse.
Moi, dans mon cas, c'est une histoire d'amitié douloureuse. Alors quelqu'un avec qui j'avais beaucoup partagé pendant plusieurs mois et c'est difficile d'avoir coupé les ponts après.
Comment avez-vous coupé les ponts précisément?
Bah écoutez, avec son téléphone, on a un téléphone de liaison qui est le téléphone attaché à notre identité réelle. Et donc je l'avais pas coupé pour pas que ça fasse brutal et que ça fasse, il fallait pas qu'il se doute que j'étais un agent. Donc j'avais laissé la messagerie, donc j'ai entendu les messages de cet homme qui me laissait un message d'amitié et j'ai pas répondu simplement. Voilà. Donc
on vous sent encore affecté par cette histoire quelques années après.
c'est exactement comme dans
le Bureau des légendes. Camille de Castelnau, vous plaisantez, hein, sur cette histoire. La vraie vie des espions, je la connais pas. N'empêche qu'il y a eu un énorme boulot de documentation, j'imagine, de votre part et de celle d'Éric Rochant pour écrire le scénario. Et pour être le plus réaliste possible.
Oui, on a lu. Alors Éric, il avait déjà un passif avec les espions. Enfin, il avait réalisé Les Patriotes il y a quelques années. C'est un univers qui connaît et qui l'intéresse. Donc oui, on a lu.
Et après, il a fallu s'en éloigner.
Mais voilà, exactement. Parce qu'on fait une fiction et que la réalité est passionnante, mais elle n'est pas pas toujours assez évidemment romanesque pour voilà.
Il est 10h30 sur France Inter. Nous avons rendez-vous à cette heure-ci avec le répondeur. Rendez-vous qui s'est installé sur l'antenne depuis le confinement. Laissez-nous un message pour prolonger la discussion sur ce que vous entendez à l'antenne. Vos réflexions, vos témoignages sont les bienvenus. Et j'ai noté depuis hier comme une envie de pousser la chansonnette.
Le répondeur d'Inter. 01 56 40 68 68.
Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que nous allons être à nouveau reconfinés? Parce que vraiment, c'était le pied de plus voir tous ces dingues, d'entendre le silence et les oiseaux. Bye bye.
Bonjour, je vous appelle de Touraine. Je suis Michel. Je suis d'origine très modeste et ne suis pas riche. Mais beaucoup de mes compatriotes réclament toujours à l'État et ça me navre. Ah, il ne faut plus d'État. Ah non, non, non. Mais on lui dit « Donnez, 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 beaucoup de sous, beaucoup de sous. » Alors, on peut toujours aller voter si on n'est pas d'accord. Ma maman a attendu l'âge de 45 ans pour se faire, voyez. Alors elle ne manquait pas, hein. Prenons-nous en main, s'il vous plaît. Soyons solidaires aussi. On vient de passer une très mauvaise période. Il faut se serrer les coudes. Merci, France Inter.
Bonjour, c'est Bernadette de Valfleury. Pour moi, le confinement, ça a été que du bonheur. Me poser, réfléchir, faire plein d'activités, remettre la maison en ordre, se promener, profiter du temps qui a passé, ça a été une merveille. Et maintenant, passons à autre chose. Il faut avancer, la vie continue et la vie est très belle. Bonne journée.
01 56 40 68 68.
Voilà, continuez à nous appeler, à nous laisser un message sur ce répondeur. Dites-nous, par exemple, si cet été 2020 sera un été comme jamais. Murder Weapon, c'était Tricky sur France Inter. La programmation musicale est signée Djoubaka. Cette émission est préparée par Cyril Marchand et Caroline Pommès avec l'aide d'Alexandre Lejeune. Elle est réalisée par Anne-Cécile Perrin.
France Inter.
D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
Dorothée Barba.
Il nous fallait évidemment la voix d'OSS 117 pour cette émission sur les espions. La vraie vie des espions avec Camille de Castelnau, scénariste du Bureau des Légendes sur Canal+, Jonathan Zakaï qui incarne Raymond Sisteron dans la série, ainsi qu'Olivier Mas, ancien agent de la DGSE, qui tient une chaîne YouTube pour raconter son métier. La chaîne s'appelle Talk with a Spy. Une question pour vous, Olivier Mas, pourquoi n'êtes-vous plus agent? Pourquoi avez-vous quitté ce métier?
Alors c'est des raisons familiales. C'était pour avoir une vie plus équilibrée. Je pense que j'ai déjà fait un divorce. Je pouvais peut-être risquer d'en faire un deuxième si je restais encore. Enfin, voilà. C'est un choix familial d'être là plus souvent pour mes enfants. C'est quand même un métier passionnant mais très prenant. Donc voilà. C'est l'explication. Sinon je serais resté personnellement si j'avais été tout seul célibataire. Je serais resté jusqu'au bout.
Camille de Castelnau.
Moi j'ai une question pour Olivier Mas. Est-ce que c'est vrai que le taux de divorce est assez élevé chez les espions? On m'a dit ça, mais je ne sais pas si c'est
élevé,
vrai.
De toute façon, dans tous les métiers. Ouais, je ne sais pas s'il est plus élevé qu'ailleurs. Je n'ai pas les chiffres. Dans l'armée de terre, par exemple, les pilotes, hélicoptères, on dit qu'il y a beaucoup de divorces, qui sont souvent à l'étranger. Je ne sais pas s'il y a plus de divorces. Il y en a. Il y en a comme partout ailleurs, je pense.
Alors, est-ce que vous avez dû, comme on le voit souvent dans les films, cacher la vérité à votre compagne? Bonsoir chérie, j'ai passé une excellente journée dans mon métier d'emprunt. Est-ce qu'on doit cacher sa carrière d'espion à sa femme, Olivier Mas?
Donc non, on va pas jusque là. C'est très malsain de faire ça. Enfin, il y a peut-être des gens qui font, mais c'est dangereux à mon avis.
C'est très malsain.
Évidemment, le conjoint, il sait que on va pas commencer à faire une vie de confiance, de couple, si on cache sa principale activité, son activité professionnelle. Ça n'a pas de sens. C'est très instable. Mais en revanche, faut pas être bavard, faut pas raconter. Donc on peut pas tellement se confier. Alors on va dire des choses un petit peu sur ces problèmes du moment, mais on va pas parler des sources, on va pas parler des dossiers. Et donc on sera assez mutique sur un grand nombre de sujets.
Voilà, faut pas être bavard, dites-vous. Est-ce que c'est un métier où on se sent seul? En tout cas, une vie où l'on se sent seul, Olivier Mas?
Ben c'est une fois qu'on a débranché le lien avec le service, et on a plus notre source d'adrénaline, et on s'aperçoit que finalement, on a donné beaucoup pour le service, et notamment on n'a pas développé de vie sociale. Moi, j'avais peu d'amis, ou j'avais des amis que j'avais avant, mais je me suis peu fait d'amis parce qu'on doit mentir tout le temps, on doit cacher, on peut pas parler de, donc c'est très peu motivant. Et ça c'est quelque chose de fort. Oui.
Vous avez également publié un livre pour raconter votre métier, un livre paru chez Ebeck, dont Profession espion, voilà, c'est son titre. Est-ce qu'il a été relu par votre ancien employeur avant publication?
Oui, il a été relu. Le service m'avait demandé d'avoir le manuscrit à l'avance. Donc il y a eu plusieurs corrections, plusieurs allers-retours, mais qui n'ont pas dénaturé de toute façon ce que j'avais envie de transmettre.
De la même manière que vos vidéos YouTube sont vues et commentées ou corrigées avant publication par les anciens services?
Je pense qu'il y a en France, il y a peut-être dans l'écrit quelque chose qui fait un peu plus peur, parce que ça va rester, dit-on, ou pense-t-on. Donc le livre était plus problématique, parce que aussi c'est un témoignage un peu plus circonstancié avec des dates, même si certaines dates ont été modifiées. Alors que la vidéo YouTube inquiète moins le service. Donc non, les vidéos ne sont pas revues avant, simplement elles sont vues de temps en temps et j'ai jamais eu de problème. Pour le service, mes vidéos ne posent pas de problème, alors que le livre c'était un peu plus gênant.
Jonathan Zakaï, je rappelle que vous jouez Raymond Sisteron dans la série Le Bureau des Légendes sur Canal+. Alors vous disiez tout à l'heure que vous côtoyez parfois, enfin vous rencontrez des agents secrets lors des projections de la série dans les services de la DGSE, mais vous avez quand même, j'imagine, des questions pour un vrai espion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fascine en particulier?
Déjà d'écouter là, ouais. tout ce qu'il dit. Justement par rapport au, moi c'est un peu une question aussi sur toujours les couples, si vous me permettez. C'est,
bah Raymond Sisteron, ça lui tient à cœur aussi d'ailleurs.
Oui, disons qu'il a jamais le temps. Il reste pas assez longtemps avec une femme pour savoir s'il va lui mentir ou pas. Donc ça, c'est un des avantages. C'est une technique d'espion aussi. Hein, je veux dire, c'est assez efficace. Mais cela dit, j'ai entendu que c'était assez fréquent que les agents sortent ensemble. Donc finalement, parce que c'est vrai que c'est un métier où c'est peut-être plus pratique quand votre femme est aussi à la DGSE. D'ailleurs, c'est un peu le cas de moi cette année avec Lise Bernstein. Donc il y a quelque chose de pratique. Elle me le dit, voilà, je peux l'emmener le matin. Ouais. On peut avoir une vie plus ou moins. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez remarqué ça au cours de votre carrière ou pas du tout, si c'est
les couples entre espions. Olivier Mas, c'est fréquent?
Oui, bah c'est fréquent. Et d'ailleurs, les cadres de la DSEC, c'est pas le vrai nom au sein du service, mais c'est donc le service qui est chargé de la sécurité et de suivre les agents pour voir s'ils restent corrects vis-à-vis du service. Quand ils font leur amphi de présentation aux nouveaux stagiaires, ils leur disent, si vous pouvez coucher ensemble ou avoir des vies ensemble et de vous mettre en couple, ça nous arrangera, parce qu'au moins l'enquête de sécurité est déjà faite. Donc on sait que vous êtes clair, quoi.
Alors l'enquête de sécurité.
C'est un peu une boutade, évidemment, mais.
Oui, pardon. Voilà. L'enquête de sécurité, oui, c'est quelque chose que vous avez vécu, Olivier Mas.
Mais elles sont systématiques. Mmh. Hein. Avant de rentrer un candidat, avant de rentrer à DGSE, il y a une enquête sur sa vie, sur ses liens sociaux, sur sa famille, etc.
Je crois qu'on est sur écoute, Olivier Mas. La ligne n'est pas excellente. Camille de Castelnau, scénariste du Bureau des Légendes. Une question, est-ce que la technique... Oui, allô. Oui, c'est Jonathan Zakaï. On va y arriver.
Hein.
C'est de la radio qui fait le tour du monde. Est-ce que la technologie est aussi présente dans la vraie vie que dans la série? C'est Bob qui nous demande ça sur l'application France Inter. Vous êtes renseigné, là, je le disais en amont avant d'écrire la série. La place de la technologie, c'était important pour le Bureau des Légendes?
C'était important, c'est devenu important en saison 4. Il y avait quand même une petite accélération des histoires et des enjeux autour du cyber. Mmh. C'était important. Après, j'ai l'impression, mais peut-être que Olivier Mas me contredira, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie culture aussi du... Enfin, si on oppose de manière un peu binaire le renseignement humain et le renseignement technique, j'ai l'impression qu'en France, il y a... Enfin, les autres pays, je sais pas, mais qu'il y a quand même une vraie culture et une vraie suprématie quand même du renseignement humain, et que la technique est évidemment hyper importante, très pratique, très dangereuse aussi, parce que enfin c'est quand même aussi par là qu'on peut se faire griller, donc c'est à double tranchant. Et j'ai l'impression que voilà, que la technique est vraiment au service de l'humain beaucoup.
La culture française du renseignement, Olivier Mas, n'est pas sur le 100% technologie.
Non, c'est sûr. C'est le métier de seigneur, un peu ce qui est mis en avant sur un piédestal. Ça va toujours être le renseignement humain, la source humaine. Mais au sein de la DGSE, vous savez, il y a technique et humain, c'est vraiment intimement lié. Et donc dans les bureaux, vous avez un personnel de la direction technique qui travaille main dans la main sur la même table à côté que le personnel de la direction du renseignement qui fait du renseignement humain. Donc c'est vraiment le mélange de ces deux informations, de ce type d'informations qui fait la qualité du renseignement. Donc on peut pas dissocier les uns et les autres. C'est très intégré, et particulièrement au sein de la DGSE.
Le cœur de votre métier, Olivier Mas, lorsque vous étiez en fonction, et notamment sous couverture, lorsque vous aviez une légende, comme dans la série, c'était de recruter des sources. C'est ce que vous dites dans votre chaîne YouTube. C'est important parce que c'est quelque chose qu'on connaît mal, dites-vous. Là, pour le coup, le Bureau des Légendes a contribué à la vulgarisation sur ce que signifie recruter une source.
Oui, on a plein d'exemples dans le Bureau des Légendes de recrutement de sources. Et puis, quand on dans la réalité, un service va avoir peut se passer, enfin, n'a pas besoin d'avoir une centaine de sources humaines. Quand on en a 100, c'est qu'elles sont pas bonnes, quoi. Oui. Vous avez 10 bonnes sources parfaitement bien intégrées au bon endroit, et là, vous êtes les rois du monde. Le service, il fait sa réputation sur 10 excellentes sources parce qu'elles sont très bien placées.
C'est du pain béni pour une scénariste, Camille de Castelnau, cette histoire de recrutement de sources sur le terrain?
Oui, c'est très pratique, parce que c'est un peu technique, mais ça nous permet de construire et d'imaginer des personnages secondaires, qui sont donc les sources, qui ne sont pas nos héros récurrents, le personnage qu'on va suivre pendant des saisons, mais ça permet à chaque saison d'aller un peu fouiller un univers, donc ça peut être la jeunesse dorée en Iran, ça peut être... le milieu intégriste, Daesh, etc. Enfin voilà, c'est des milieux très différents.
Ce sont des gens qui vont pas devenir espions à proprement parler, mais qui vont informer les services de renseignement régulièrement.
Voilà, ce sont des gens qui le font pour plusieurs raisons.
Pas forcément financières.
Mais pas forcément, souvent légaux, apparemment. Mmh. Mais voilà, qui le font pour plusieurs raisons. Et voilà.
Olivier Mas?
Oui, absolument. Donc il y a, je pense aussi pour les sources qu'on a eues pour sur l'État islamique et qu'on continue à avoir, il y a aussi l'idéologie des gens qui sont très anti-État islamique et qui sont des musulmans convaincus, très très pieux, et qui parfois récupèrent un peu d'argent, forcément, mais pas beaucoup, et ils trahissent, ils travaillent pour le service contre l'État islamique par idéologie.
On va écouter un nouvel extrait du Bureau des légendes, les risques du métier.
T'es pas le seul à te poser des questions. En plus, toi, tu le connaissais. Donc c'est normal. Mais Sylvain, on tue pas nos propres agents. Pour ça, il faut des circonstances exceptionnelles. Une vraie nécessité opérationnelle. Et là, il n'y en avait pas.
Je suis pas fait pour ça. J'ai pas été formé pour ça. Et là, je me retrouve au Cambodge, en plein milieu d'un truc ultra confidentiel, russe. Si on me chope, on me torture pendant des semaines avant de me tuer.
Non, s'ils te chopent, ils te bousculeront un peu. Et puis, ils te négocieront. Alors on devra payer cher pour te récupérer, mais on te récupérera.
Voilà, c'était Sylvain qui s'interroge sur les risques du métier. Le personnage de Sylvain dans le Bureau des légendes. Qui diable est fait pour ça, Camille de Castelnau ?
Pas Sylvain, visiblement. Pour qui c'est quand même compliqué. Qui est fait pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que... vous demandiez tout à l'heure à Olivier, est-ce que c'est difficile, la dissimulation, la manipulation ? Je pense que ça fait partie parfois de leur métier, et je pense qu'il y a aussi peut-être une forme de plaisir aussi à le faire. C'est quand même très excitant, je pense, en termes d'adrénaline,
d'aventure.
Voilà. Ouais.
Raymond Sisteron, il est fait pour ça, à votre avis, Jonathan Zakaï, votre personnage ?
Mais même si votre question est un peu orientée, oui, je pense que oui. Oui, contrairement à ce que
vous avez l'impression que je doute de ses qualités d'agent, pas du tout. L'adore,
mais
Sisteron.
Je crois que les gens, en fait.
Oh, mais décidément.
Confondent.
Les gens confondent.
Allô ?
Oui, ça y est, on vous entend. Allez-y.
Oui, ok.
C'est des fautes humaines, en fait, excusez-moi, c'est vraiment, c'est le FSB qui me harcèle.
Je veux dire
qu'il y a des risques, il y a quand même des risques énormes à prendre en compte, et évidemment que voilà, c'est compliqué, mais je pense que l'agent parfait n'existe pas. Je pense qu'ils sont tous. C'est compliqué. C'est long. Et comme me disait un agent que j'avais rencontré justement à la DGSE, il me disait votre série, c'est un peu 20 ans d'une carrière, hein, une saison. Donc, je veux dire, on est.
Bon, une question très importante qui nous vient de Emmanuel, fan du Bureau des légendes. À quand la saison 6, Camille de Castelnau ?
Eh bien, je ne sais pas.
Ah non, mais comment ça ? Vous pouvez pas juste me répondre ça ?
Mais non, je ne sais pas, parce que moi, je ne
l'écris
pas.
Vous connaissez peut-être l'équipe, non ?
Donc, je ne veux pas être garante de quelque chose que je ne maîtrise absolument pas.
Bon, eh bien voilà. Il faudrait qu'on fasse plus de place aux femmes espions, nous écrit Raymond. Et à ce titre-là, je voudrais vraiment vous conseiller une série, formidable série documentaire à voir sur Arte. Ça s'appelle Les Espionnes racontent. C'est une enquête menée par Chloé Aberhart qui a été mise en image par Aurélie Paulet, série d'animation avec la voix de Miu Miu. C'est gratuitement en ligne sur le site d'Arte. Courez-y. Et voici Jean-Louis Murat sur France Inter, il est 10h48.
Fair.
C'est fait, c'était Jean-Louis Murat sur France Inter. On parle d'espionnage dans L'été comme jamais et l'émission touche à sa fin. Il faut que je vous dise d'écouter les premiers épisodes de Espion, une histoire vraie, un podcast de Stéphanie Duncan. À retrouver également sur l'antenne de France Inter le samedi à 13h20. Une toute dernière question pour Camille de Castelnau, scénariste du Bureau des Légendes. Est-ce que cette série a suscité des vocations d'espion ?
Alors je crois que oui, mais c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, je crois que oui.
En tout cas, les agents de la DGSE et du renseignement en général aiment bien la série, je crois.
Oui, 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 ils aiment bien la série. Et je crois qu'il y a eu en termes de recrutement, ça a suscité des vocations. Après, la série, elle est aussi arrivée au moment des attentats en France. Donc, je pense que c'est un petit peu compliqué de faire la part de la fiction et de la triste réalité.
Merci beaucoup à tous les trois. Je renvoie à votre chaîne YouTube, Olivier Mas, Talks with a Spy, c'est son titre. Profession espion, votre livre paru l'an dernier est disponible chez Ebeck. Les 5 saisons du Bureau des Légendes sont disponibles sur Canal+. Merci beaucoup Camille de Castelnau, scénariste. Merci. Et bon vent pour la suite puisque vous quittez le bureau. Merci Jonathan Zakaï. Vous serez à l'affiche du film Belle Fille qui sort le 19 août sur les écrans aux côtés d'Alexandra Lamy, Miu Miu et Thomas Dutronc. Et peut-être Raymond Sisteron sera-t-il dans la saison 6 du Bureau des Légendes. On ne quitte pas le cinéma, tenez, puisque voici Laurent Delmas. Le plateau ciné, c'est un conseil de films à voir sur la plateforme de vidéo à la demande Univers Ciné. Il suffit de vous créer un compte gratuitement et la location de films coûte ensuite 2 €. Et je vous laisse reconnaître le film du jour grâce à la toute première scène, les premières images. Je reconnais ô combien cette bande-annonce. Film espagnol, Laurent Delmas, sorti en 2001.
Bravo, je vous emmène en Espagne aujourd'hui pour Parler avec elle, de Pedro Almodovar. Tout commence donc par du Purcell avec un lamento chorégraphié par Pina Bausch dans un fabuleux spectacle intitulé Café Muller et dont nous suivons ici un extrait avec certains protagonistes du film dans la salle. D'entrée de jeu, Almodovar nous le dit. Ici, il sera question de corps qui regardent d'autres corps en mouvement ou non. Il sera question de regard aussi, celui du spectateur, le nôtre donc aussi comme celui du voyeur amoureux ou de l'amant bienveillant ou de la mère inquiète. Dans une clinique privée de Madrid, un infirmier veille depuis 4 ans sur la jeune Alicia, plongée dans le coma et dont nul ne sait si et quand elle en sortira. Un autre jeune homme arrive et fait de même avec sa compagne Lydia, plongée dans un coma identique après une corrida qui a viré au désastre. Deux hommes aimants, deux femmes qui dorment, Deux couples dont Almodovar raconte l'histoire avec une maestria incroyable, faisant se croiser flashback, ellipse et réminiscence. Et même un film dans le film muet et noir et blanc que l'infirmier raconte à sa patiente endormie.
Es que anoche vi una película que me ha dejado trastornado. Es una historia de amor. Entre Alfredo, un chico un poco gordito, como yo, pero buen tío. Y Amparo, su novia, que es científica. Amparo está investigando la fórmula de una dieta experimental. Va ser la bomba en el mundo de la nutrición.
On se gardera bien ici de raconter le suspense qui se niche dans le cœur battant du film, hein, Dorothée.
Surtout pas.
C'est la fleur de mon secret alliée à la loi du désir. Les deux axes majeurs du cinéma si singulier d'Almodovar. Il ne négocie pas avec le mélo, il s'en empare et n'en retient que l'essentiel, la mise en avant d'émotions brutes confrontées à des situations extrêmes. Comme les danseurs de Pina Bausch, les personnages d'Almodovar disent et la beauté profonde et la difficulté infinie d'aller à la rencontre de l'autre. Si Parle avec elle est à mes yeux son film le plus réussi et le plus fou à la fois, c'est que le cinéaste espagnol ne cache rien de ses démons intérieurs tout en les laissant suffisamment en lisière pour que nous puissions les partager. Ben, ça doit être cela qu'on appelle l'universel. Comme toujours chez Almodovar, la BO est un bijou où se mêlent compositions originales et reprises à point nommé. Et c'est bien le cas de cette chanson avec laquelle nous nous quitterons et dont l'interprétation par son auteur Caetano Veloso constitue une scène même du film. C'est la nuit, dans une belle villa madrilène, avec piscine, et c'est Dorothée...
Coucou, coucou, Paloma.
...qui s'élève. Prochaine séance, demain, même heure.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo.
Non, mais ça me brise le cœur de ne pas la passer en entier. Parle avec elle de Pedro Almodovar, à voir sur universciné.com, donc plateforme de VOD, de vidéo à la demande, dont France Inter est partenaire. Merci à Laurent Delmas et Anne Venfeld. Et sur cette douce mélodie, sur le chant de la colombe, nous retrouvons Aurélie Sfez. Ça lui va bien. Bonjour, ma chère Aurélie.
Ah, bonjour Dorothée.
Rendez-vous place du marché, ça démarre juste après les infos de 11h. Où êtes-vous ce matin?
Alors Dorothée, si je vous dis Cucugnan,
ah bah je vous réponds.
Vous pensez à quoi?
Le curé, Alphonse Daudet.
Banco. Et vous allez l'entendre, il existe.
Il existe en vrai.
Mmh. Mais bien sûr, ici à Cucugnan, c'est comme dans les livres d'Alphonse Daudet, mais là, on le vit en vrai et en direct.
Et ça sera juste après les infos. À tout à l'heure.